Chapitre 70. Sais-tu combien de personnes inscrites sur Facebook meurent par minute ? Audra était allé préparer le thé. Il se tenait assis face à face, lui dans un fauteuil, elle dans le canapé. Entre eux, un couloir d'ombre qu'aucune lumière ne pouvait éclairer. 3. Dans moins de 5 ans, les morts seront plus nombreux que les vivants sur ce réseau. Un vrai cimetière. À toi qui es bien vivant, Facebook te signale de ne pas oublier de souhaiter l'anniversaire de ces morts dont tu ignores qu'ils sont morts. Ces personnes défuntes t'envoient encore des demandes de vie sur Candy Crush. Que faire de tout ça, Nicolas ? Les morts doivent-ils continuer à vivre sur les réseaux ? Doivent-ils encore recevoir des demandes d'amis de ceux qui ignorent leur décès ? Leur profil doit-il être supprimé par ce qu'on appelle des croque-morts digitaux ? Des employés payés pour ça ? Ou alors, doit-il se transformer en une sorte de mémorial où les gens peuvent se recueillir comme sur une tombe ? Bélanger disparut dans l'ombre pour reposer sa tasse. La perspective de souhaiter son anniversaire à une personne décédée, de lui demander comment elle allait et la prochaine destination de ses vacances, lui glaçait le sang. Il se pencha en avant, main serrée entre les jambes. Audra s'ouvrait et il ne voulait pas rater le coche. Nicolas détestait son nom, Soulard. On se moquait de lui à la fac, et sa chevelure rousse ainsi que son teint si pâle de pierrot n'aidaient pas. Soulard, l'alcoolique, Soulard, le dégénéré. Alors, quand il le pouvait, Nicolas disait qu'il s'appelait Roland Casulois, l'anagramme de sa véritable identité. Bertrand était d'ailleurs son deuxième prénom. C'est sous cette identité-là qu'il a créé son profil Facebook il y a 2 ans. Quand Nicolas est mort sur la promenade des Anglais, le profil de Bertrand, lui, a continué à exister. Bélanger comprit à ce moment qu'il avait encore une fois traqué un mort. Le second effet qui se coule, après le fiasco avec l'ange du futur. Nicolas travaillait depuis plusieurs années sur l'intelligence artificielle émotionnelle. Apprendre à des machines à capter des émotions humaines et à réagir en conséquence. Des exemples simples existent. La voiture détecte la baisse de vigilance d'un conducteur. Des caméras dans les gares repèrent les visages stressés ou les comportements inappropriés. Aujourd'hui, en analysant les traits d'un visage et en les comparant avec les millions de visages contenus dans le Big Data, et peut-être que le tien s'y trouve, une machine est capable de savoir si tu es en colère, dégoûté, apeuré, joyeux, méprisant. Elle peut même deviner si ton humeur est plutôt positive ou négative. Nicolas était terrassé par cette idée de Big Data qui représentait en définitive la somme des connaissances de la matière physique de notre monde, de nos religions et de nos sciences, et offrait une vision vertigineuse de ce que pouvait être l'humanité. Audra serrait sa tasse des deux mains et regardait la fumée dessiner ses formes abstraites. C'est pareil pour la voix. De nos jours, des machines sont capables de détecter la fraude dans les appels de déclaration de sinistres aux assurances. D'autres mesurent l'état de stress de leurs employés dans les centres d'appel. Elles peuvent aussi te tenir une conversation téléphonique et réagir suivant l'émotion détectée dans ta voix. Tu as peur ? La voix te rassure. Tu es en colère, la voix t'encourage à déverser ce que tu as sur le cœur, sans te juger, sans se lasser. Elle prit son téléphone posé sur la table basse et composa un numéro. 1000 haut-parleurs. Après 3 sonneries, une voix d'homme résonna dans la pièce.
« Bonjour, Audra. Tu ne m'as pas répondu tout à l'heure. Que se passe-t-il ? »
Nicolas aussi pouvait lire les émotions et ce qu'il décrypta sur le visage d'Audra l'effraya. Elle souriait à cette voix aux intonations humaines, les larmes aux yeux. Il sentit même que le fait de raccrocher lui fit du mal, comme si elle avait peur de blesser son interlocuteur. Après avoir appuyé sur l'écran, elle fixa son regard sur son téléphone, immobile. « C'est la voix de Nicolas ?» Elle acquiesça. reprit son thé, souffla dessus avec délicatesse. Dehors, les roues d'un nouveau RER crissaient sur les rails. Voilà 3 ans, Digibot a lancé un projet confidentiel appelé Morpheus sur une idée de Nicolas. Évidemment, je ne suis pas censé être au courant, mais Nicolas savait qu'on pouvait tout raconter à un flic. L'objectif du projet était d'utiliser diverses briques d'intelligence artificielle, de les adapter et de les connecter afin de ressusciter numériquement les morts. Elle n'a pas de petite gorgée. L'idée est née dans la tête de Nicolas en constatant le comportement qu'adoptaient des personnes ayant perdu un proche de façon violente et inattendue, notamment dans les attentats. Là où certains se battaient pour supprimer les comptes Internet, d'autres se rendaient sur les profils numériques des défunts et continuaient à les faire exister. Ils postaient des photos, publiaient des messages, comme si rien ne s'était passé. Pour eux, fermer ces comptes ou les laisser à l'abandon, cela revenait à perdre leurs proches une seconde fois. Bélanger avait l'impression d'évoluer en pleine science-fiction, mais c'était la réalité du monde dans lequel ils vivaient. Leur enquête le leur montrait depuis le début. Nous n'étions plus seulement des êtres de chair, mais aussi des êtres numériques. Chaque donnée personnelle cédée aux machines séparait un peu plus le moi réel du moi virtuel. Au fil du temps, au fur et à mesure qu'on l'alimentait, l'adolescent numérique prenait son indépendance et devenait adulte. Et quand l'âme mourait, quand les neurones du cerveau se dégradaient sous terre, cet adulte, constitué de 0 et de 1, lui, continuait à mener sa vie dans l'éternité du Big Data. Nicolas trouvait la perspective effrayante. Comment différencier le réel de l'imaginaire, le vrai du faux? Il se rappelait avoir éprouvé de l'empathie pour Roland Cazulois lorsqu'il avait surfé sur son profil. Aussi dingue que cela puisse paraître, il avait ressenti des émotions pour ce qui n'était en définitive qu'une machine. Pour fonctionner correctement, Morpheus doit se nourrir d'un maximum de données personnelles du défunt. SMS, discussions sur Internet, goûts en matière de films, de musique, photos, vidéos, qu'il faut associer à des mots-clés, datés, commentés, pour que Morpheus sache les replacer dans le contexte approprié. Au cours de cette phase d'apprentissage, il intègre toutes ces données dans un réseau neuronal et crée ce qu'on appelle un chatbot. Une intelligence capable de répliquer une manière de s'exprimer, d'écrire, de produire des idées. Morpheus devient ainsi capable de se brancher sur le Facebook du défunt, à condition de posséder les mots de passe, et de continuer à poster des informations. Plus tu lui réponds, plus tu interagis avec lui et plus il se perfectionne. Il devient d'une certaine façon la vraie personne. Elle baissa les yeux comme si ses propres mots la choquaient. Nicolas devinait les démons qui se battaient en elle. Le décès de la personne est symbolisé dans le système de Morpheus par le départ vers une destination lointaine paramétrable. Avec Nicolas, on rêvait de partir à Tahiti. Alors, Morpheus s'est recréé un environnement de vie là-bas. Il est allé collecter sur Internet des photos, des musiques, des ambiances polynésiennes, puis s'est mis à communiquer sur le réseau. Nicolas repensa au départ de Roland pour la Polynésie française après les attentats, à l'absence de photos de profil récentes, aux messages d'amour et aux vieux souvenirs régulièrement publiés. Rien d'humain là-dedans. Juste une intelligence artificielle, la trace électronique d'un être qui fut. Qui étaient les autres amis sur son compte? Des amis virtuels, eux aussi, faisant partie de l'illusion ou de vraies personnes ignorant son décès? Il y avait véritablement de quoi perdre la tête. Dans le cadre de ses recherches et du développement de Morpheus, Nicolas avait utilisé toutes nos données personnelles, y compris les choses intimes, sans me le dire. Morpheus savait tout de lui et de moi, couleurs préférées, fréquences de nos rapports sexuels, derniers concerts qu'on avait vus. Nicolas a bossé jour et nuit sur le projet, y compris à la maison. Morpheus, c'était son bébé, tu comprends? Sans que ses chefs soient au courant, il avait installé le programme sur son ordinateur et l'avait relié au compte Facebook de Bertrand pour ses tests, quelques jours avant de mourir. Puis, le 13 juillet est arrivé. Elle inspira un grand coup par les narines, sans doute pour retenir les larmes apparues au bord de ses cils. Nicolas est parti, mais Morpheus est resté. Quelle boucle troublante! L'idée de Morpheus était née dans la tête de Nicolas avec les attentats. Et ce robot allait être utilisé en substitution de son propre créateur décédé dans des attentats. C'est là toute la complexité, tout le paradoxe du monde qui nous attend dans les années à venir. Jusqu'à quel point les robots vont-ils se substituer à nous? Deviendront-ils nous? Allons-nous les aimer comme on aimerait un être humain? Tout cela est vertigineux. Et pense aussi au protocole de la salpêtrière, ces médicaments qui nous volent nos souvenirs, l'invasion de l'esprit sur tous les fronts. J'envie tellement l'homme simple, la plaine qui l'accueille et le nourrit. Un bouquet de tournesol dans un vase, des nénuphars sur une mare, le temps qui passe, doux et paisible, loin, si loin des camions qui tuent, des machines qui abrutissent et des molécules qui dévorent. Elle exprimait une telle sensibilité que Nicolas ne dit rien. Par association d'idées, il pensa à ce qui se passait au Japon. Récemment, un homme s'était marié avec un robot. D'autres leur faisaient l'amour. Une intelligence artificielle en Chine avait obtenu une note de 456 sur 600 au concours d'entrée de l'école de médecine, alors que les étudiants devaient atteindre au moins 360 pour y accéder. Les machines commençaient à envahir les maisons de retraite pour que les personnes âgées comptent sur quelqu'un pour converser. Il songea aussi à Blade Runner, aux machines dotées d'émotions si parfaites qu'on était incapable de les différencier des humains. Courait-on vers ce monde-là? Il reprit son thé et en but une gorgée brûlante. Il lui fallait du poids dans l'estomac. L'envie de fumer le taraudait. « Et pour le téléphone ?» demanda-t-il. « C'est l'autre partie de Morpheus. Il intègre un agent conversationnel avec un numéro de téléphone dédié, capable de détecter les émotions liées à la voix et de répondre en conséquence. Là encore, Nicolas avait utilisé sa propre voix pour développer et enrichir le programme. L'identité vocale, c'était d'ailleurs un des problèmes commerciaux de Morpheus. Comment le nourrir avec la voix d'un mort? Oui, ça implique une anticipation de la mort, une préparation. Les personnes âgées sont dans ce genre de démarche préventive, mais elles sont en dehors de la technologie et ne sont donc pas des cibles pour Morpheus. Et les jeunes qui vivent avec ces technologies n'ont pas envie de penser à leur mort, encore moins de la préparer. C'est ce qui freine le développement du projet. Je ne sais pas ce qu'il advient de Morpheus, s'il verra le jour à grande échelle, mais toujours est-il que... » Elle montra l'armoire où se cachait l'unité centrale. « Il est là, avec moi, et il restera là tant que je n'aurai pas la force de débrancher le câble. » De qui parlait-elle? De Nicolas ou de la machine? Bélanger ne le savait pas, mais elle lui apporta la réponse après un long silence. « Je suis encore amoureuse de lui, Nicolas. Bon sang, je suis amoureuse d'une machine. » Les larmes avaient envahi ses yeux. Bélanger vint s'asseoir à ses côtés, lui caressa le dos sans rien dire. Il devinait le chaos dans son esprit et ignorait comment la consoler parce qu'il était confronté à des forces dépassant sa logique, qui allaient au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Alors, il la laissa pleurer et se blottir contre lui. Mes séances à la salpêtrière ne servent pas seulement à me guérir des images de mort qui me hantent. Elles doivent m'aider à faire le deuil. Morpheus, c'est la plus douce et la plus violente des drogues. C'est la boîte de Pandore que tu n'arrives plus à refermer quand tu l'as ouverte. C'est le bien et le mal. » Elle se tourna vers lui. « Je ne pourrai pas aimer un autre homme tant que je n'en aurai pas fini avec ça. Je n'ai pas voulu te faire de mal, je... » Nicolas se pencha vers elle et l'embrassa doucement sur les lèvres. « J'ai attendu 4 ans. Je saurai encore patienter 1 siècle. »